Le serpent blanc par les frères Grimm. Il y a bien longtemps, vivait un roi dont la sagesse était célèbre dans tout le pays. Rien ne lui restait inconnu, et il semblait que la nouvelle des choses les plus secrètes lui fût apportée par l'air. Il avait une coutume étrange. Chaque jour, après le dîner, quand la table était desservie et qu'il n'y avait plus personne, un serviteur de confiance lui présentait un plat couvert dont lui-même ignorait le contenu. Et personne d'autre ne le savait non plus, car le roi ne découvrait le plat que lorsqu'il se trouvait tout seul. Ce manège avait déjà duré quelque temps lorsqu'une fois, comme le serviteur enlevait le plat du roi, la curiosité le piqua tellement qu'il ne put résister et l'emporta dans sa chambre. Il ferma soigneusement la porte, leva le couvercle et vit que dans le plat, il y avait un serpent blanc. À cet aspect, il fut pris d'une envie folle d'y goûter. Il en coupa un petit morceau et le mit dans sa bouche. À peine le morceau eut-il touché sa langue qu'il entendit un petit gazouillis devant sa fenêtre. Il alla pour écouter et reconnut que c'étaient les moineaux qui se racontaient ce qu'ils avaient vu dans les champs et dans les prairies. Le serpent lui avait donné la faculté de comprendre le langage des animaux. Il arriva que ce même jour, la plus belle bague de la reine disparut, et qu'on soupçonna le serviteur qui allait partout de l'avoir volée. Le roi le fit venir et lui déclara que si avant le lendemain il n'avait pas nommé le voleur, il serait considéré comme tel et pendu. Il eut beau protester de son innocence, il fut congédié sans obtenir autre chose. Dans son angoisse, il descendit dans la cour, et là, il se mit à rêver au moyen de se tirer d'un aussi grand péril. Les canards étaient posés au bord de l'eau, ils se délassaient, se barbouillaient avec leur bec et tenaient une conversation intime. Le serviteur s'arrêta et écouta. Et ils se racontaient où ils étaient allés ce matin et quelle bonne nourriture ils avaient trouvée. Alors l'un d'eux se prit de dire
« Moi, moi, j'ai mal à l'estomac ». Pour avoir avalé une bague qui était sous la fenêtre de la reine. »
Le serviteur le saisit aussitôt par le cou et s'en fut le porter à la cuisine où il dit au cuisinier « Tuez-moi donc ce canard-ci. »«
Oh oui, » répondit le cuisinier en le prenant dans sa main. « Il y a longtemps qu'il attend. Il fera un bon rôti. »
Et il lui coupa la tête. Quand on l'eut vidé, la bague de la reine se trouvait dans son estomac. Le serviteur pouvait maintenant prouver facilement son innocence, et le roi, qui avait à réparer un tort envers lui, l'autorisa à demander une grâce en lui promettant la première place à sa cour. Mais il refusa tout et ne demanda qu'un cheval et de l'argent pour voyager, car il avait envie de voir le monde pendant quelque temps. Il se mit donc en route, et un jour arriva au bord d'un étang où il remarqua trois poissons qui s'étaient pris dans les roseaux. Et comme il comprenait le langage des animaux, il les entendit se plaindre de ce qu'ils allaient mourir misérablement. Il eut pitié d'eux, descendit de cheval et remit les trois prisonniers à l'eau. Ceux-ci se trémoussèrent de joie et dirent à leur sauveur
« Nous nous en souviendrons et nous t'en récompenserons un jour. »
Il continua son chemin et quelque temps après, il lui sembla entendre une voix à ses pieds dans le sable. Il écouta. Or, c'était le roi des fourmis qui se plaignait ainsi.
« Ah, si les hommes voulaient seulement rester loin de nous avec leurs animaux massifs !» Ce maladroit de cheval me tue sans pitié mes gens avec ses fers. »
Alors le serviteur se détourna un peu vers la gauche et le roi des fourmis s'écria
« Je m'en souviendrai et je te récompenserai un jour. »
Cependant, le sentier qu'avait pris notre voyageur le conduisit à une forêt où il vit des corbeaux qui jetaient leurs enfants hors du nid. «
Allez-vous-en » disait-il. « Mange tout que vous êtes. Nous ne pouvons plus vous nourrir. Vous voilà désormais assez grand pour vous nourrir vous-même. »
Les pauvres bêtes étaient sur la terre froide, voltant et battant des ailes, et ils s'écrièrent
« Ah, malheureux que nous sommes! Nous devons chercher nous-mêmes notre pâture, et nous ne pouvons encore voler. Il ne nous reste qu'à mourir de faim. »
Le bon voyageur descendit alors de son cheval, le tua avec son épée, et le laissa comme nourriture au jeune corbeau. Il sautillait, mangeait et disait
« Nous n'oublierons pas ton bienfait, et nous t'en récompenserons un jour. »
Il fallait maintenant continuer le voyage à pied, et après avoir marché bien longtemps, notre homme arriva dans une riche cité. Il y avait un grand bruit et une grande foule par les rues, et un héros à cheval faisait savoir au peuple que la fille du roi cherchait un époux, que celui qui voudrait la demander devait accomplir un travail difficile, mais que s'il échouait,
il y perdrait la vie. Beaucoup l'avaient déjà essayé et avaient en vain joué leur existence. Mais le jeune homme, voyant l'éclatante beauté de la princesse, oublia tout péril, alla saluer le roi et s'annonça comme prétendant. On le mena au bord de l'eau et l'on jeta sous ses yeux dans les flots une bague qu'on lui ordonna de chercher au fond de l'abîme, le menaçant, s'il remontait sans la tenir, de le précipiter à nouveau dans les eaux. Tous regrettaient le beau jeune homme. On le laissa seul sur le rivage de la mer. Il y demeura, l'âme irrésolue, songeant à ce qu'il allait faire. Tout à coup, il aperçut trois poissons accourant à la nage, et qui n'étaient autres que ceux auxquels il avait sauvé la vie naguère. Celui du milieu avait au bec une coquille qu'il mit sur le rivage au pied du jeune homme, et lorsque celui-ci la prit et l'ouvrit, il y trouva la bague d'or. Rempli de joie, il s'en fut chez le roi, s'attendant à recevoir de lui la récompense gagnée. Mais la fière princesse, apprenant qu'il n'était pas de la même noblesse qu'elle, le refusa et dit qu'il devait accomplir une deuxième tâche. Elle descendit au jardin et y jeta elle-même 10 sacs de millet.
Il devra l'avoir ramassé avant que le soleil de demain soit levé et sans qu'il y manque un seul grain.
Le jeune homme examina vainement de quelle façon il pourrait obéir à cette exigence. Il s'assit tout triste dans le jardin, croyant bien qu'on viendrait l'y prendre pour le mettre à mort le lendemain matin. Quand les premiers rayons du soleil tombèrent sur le jardin, le pauvre prétendant vit les 10 sacs remplis de millet sans qu'un seul grain y manquât. Dans la nuit, le roi des fourmis était venu, avec des milliers de ses sujets, et les animaux reconnaissants avaient rassemblé tout le millet et rempli tous les sacs. La fille du roi vint elle-même en ce lieu et vit avec étonnement que le jeune homme avait accompli ce qu'elle avait demandé. Mais elle ne pouvait encore vaincre son humeur altière et dit
« Quoiqu'il ait rempli ces deux conditions, il ne sera pas mon époux avant de m'avoir une pomme de l'arbre de la vie. »
Jamais le jeune homme n'aurait trouvé l'arbre de vie si les jeunes corbeaux qui lui devaient leur existence ne l'eussent pas aidé. Ils avaient grandi pendant tout ce temps et avaient suivi leur sauveur. Et lorsqu'ils entendirent ce que la princesse demandait, ils s'envolèrent à la recherche de l'arbre de vie, et l'un d'eux en rapporta une pomme dans son bec, puis la laissa tomber dans la main du voyageur. Alors celui-ci la présenta à la belle princesse, et comme la dernière condition était remplie, il ne lui restait plus aucune excuse. Elle devint donc la femme du jeune homme, et lorsque le vieux roi mourut, son gendre hérita la couronne, et comme les deux époux avaient mangé de la pomme de l'arbre de vie, ils vécurent heureux jusqu'à un âge très avancé. Et voilà.